Il a des dents en or, une bouche de riche sur une tête des bas-fonds. C'est avec ces mots-là que Joyce Ormond, romancière, décrit Joey Starr. Son corps comme un flipper, un scorpion tatoué sur l'estomac. Le livre de Joyce Ormond s'intitule « Du bruit », il a été publié en 2007. Elle y raconte les concerts, la musique, les voix de Joey Starr et Cool Shen, comment leur son à eux a percuté sa vie à elle. Ce matin, Pop & Co et Pop & Supreme NTM. Ils ont écrit leur nom sur les murs des villes et ils ont définitivement paraffé les années 90 en France. En posant les fondements du rap français, en faisant exister un lieu pas très visible dans la chanson, Saint-Denis et tout le 93, la banlieue, dont il a été de plus en plus question à la télé, à la radio, dans la presse. Une scansion, des mots, une époque et un accent, celui de Jane Birkin. Pop & Co ce matin, c'est explorer les coulisses d'une de ses nouvelles chansons avec Étienne Dao et Jean-Louis Pierrot. De Saint-Denis à Londres, bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Et on dirait qu'il serait 13h. Le journal vous est présenté par Gilles Schneider. Autour de la table, Joey Starr et le journaliste Jean-Marc Stricker.
Je voulais citer notre confrère Elle, le magazine hebdomadaire Elle, qui a sorti un truc très drôle. Parlez-vous le langage des baladuristes? Et alors justement, à Nick Namer, ça serait remplacé par « Comment va madame votre mère ?»
Oui. Hein ?
Je ne sais pas si vous aviez vu ça. J'ai bien aimé cette forme d'humour assez rare dans cet hebdomadaire, il faut bien le dire. Mm-hmm. Et donc voilà, est-ce que vous seriez-vous prêt à passer justement de Nick Namer à « Comment va madame votre mère ?»
L'humour de Belle ne vous séduit pas.
J'ai l'impression qu'il s'en fiche.
Moi je...
Parce que de toute façon, il y a des gens qui disent comment va madame votre mère et qui achètent les disques de NTM. Hein. Mm-hmm. On dit pudiquement ici autour des micros NTM. C'est peut-être votre maison de disques qui veut ça. Hein. Mais
pas du tout, non. Non, 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 nous c'est Nique ta mère, même chez eux.
Alors pourquoi Nique ta mère, c'est violent ça?
Pourquoi Nique ta mère?
Oui.
Bah, parce
c'est violent comme on peut s'appeler
pourquoi
autrement.
Pourquoi Nique ta mère? Parce qu'il y a urgence, quoi. Et qu'il n'y a que par la virulence qu'on sent l'urgence, quoi, malheureusement, ici.
Mmh. Mais l'urgence, c'est pas forcément la violence. L'urgence, c'est aussi
humanitaire. J'ai pas parlé de violence, j'ai parlé de virulence.
Ah, pardon.
Parce que quand on tape du poing sur la table, il y a comme ça qu'on nous écoute, malheureusement, quoi. J'ai fait les AMJC, je peux vous le dire.
Avec un chiffre et ses trois lettres, ils ont signé la ville. 93 NTM, tracé à la bombe sur les wagons du métro de la ligne 13. Un collectif de graffeurs et de danseurs, d'abord, dont Joey Starr et Cool Shen. Et finalement, le rap n'est venu qu'après. Parce qu'avant eux, les premiers rap dans la langue de Molière, c'était quoi? C'était Destroy Man et Johnny Go, avec un titre comme On le balance. Quelle année? 1987.
On le balance, on le balance, on le balance pour toi. Qui est venu ici pour l'éclater qui ne la ressent pas? Oui, un peu de son ambiance avec beaucoup de peine. Johnny Go, mais tous regardent et chauffer les verres. On le balance, on le balance, on le balance pour toi. On le balance pour toi. On le balance, on le balance, on le balance pour toi. Aveugle, muet, malentendant, miaou et wawa.
Allô Vincent?
Oui.
Vincent Piollet est le co-auteur d'une biographie avec Pierre-Jean Clairaut, le titre « NTM dans la fièvre du suprême ».
Oui, oui, je suis là.
Pourquoi et comment les NTM se sont mis à rapper, vu que au départ, ils étaient avant tout dans le graphe et dans la danse?
Ça n'a pas été évident au départ, parce que ils ont vraiment, eux, contrairement à la génération d'après, ils ont grandi avec le rap américain. Il n'y avait pas de rap français. Et ceux qui le faisaient en français, c'était pas terrible. Beaucoup me disaient en fait que le rap en français, ça, ils étaient pas très intéressés, ils comprenaient pas trop la démarche en fait.
C'est comme si le rap en français, c'était pas crédible, un peu comme le rock'n'roll au départ finalement.
Un petit peu, ils avaient peut-être peur de passer pour un peu des Johnny Hallyday ou ce genre de choses. Et voilà, ils comprenaient pas qu'est-ce qu'ils pouvaient surtout apporter de plus. Surtout pas de mieux, mais donc de plus, qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter. Et puis, petit à petit, en fait, ils ont été piqués au jeu, parce que comme c'est deux personnes qui ont un esprit de compétition limite hors norme, après avoir été très très bons en danse, pratiquement les meilleurs en tag, en graph, ils se sont dit bon bah maintenant on va se mettre au rap, et à partir du moment où ils ont accepté le challenge, on va dire, c'était pas pour s'y mettre à moitié et démontrer qu'on pouvait rapper aussi en français et bien.
Le monde de demain, c'est l'un des premiers morceaux publiés par NTM en 1990. Kool Shen et Joey Starr en déroulent le texte sur une bande-son largement inspirée de ce morceau de Marvin Gaye. T stands for Trouble, paru en 1972.
Là, la grande différence, c'est notamment leur DJ, donc DJ S, qui fait la musique, qui fait les productions sonores, a largement, oui, copié un petit peu donc les Américains, pas mal Public Enemy, Run DMC, NWA, donc des groupes de rap américains, pour avoir un peu cette influence, une autre couleur avec l'utilisation d'échantillons, de ce qu'on appelle donc des samples, plus soul, plus funk. Et eux, avec leur flow, leur phrasé, ils ont réussi comme ça à coller à cette musique. Et ça a été une vraie rupture avec ce qui se faisait avant, parce qu'on n'avait pas cette énergie aussi. Et ils ont cette énergie qui les différencie totalement d'ailleurs.
La vitesse, c'est ce qui circule dans un roman paru en 2007, un livre qui raconte NTM et l'effet de leur musique sur la vie. Du bruit, c'est le titre.
J'arrive, hein, c'est ce...
Et c'est Joyce Ormond qui l'a écrit. Extrait, rap, musique qui change la vie depuis 20 ans, mais musique qui n'intéresse que ponctuellement à la faveur d'un débordement de la jeunesse. Cité embrasée, banlieue soulevée, avenir bouché, dossier spécial dans la presse, on dissèque les textes, on souligne en rouge, mais le rap ne se lit pas. Il doit être scandé, écouté, bête sauvage illisible.
Ah, je crois que c'est connecté, là.
Dans ce livre, du bruit, alors qu'en général, quand on parle d'NTM, on parle beaucoup des textes, on parle même quasiment que de ça, et de ce dont ils seraient les porte-paroles, etc. Vous, le parti que vous prenez dans du bruit, c'est pas du tout celui-là. Vous dites non, c'est pas du message, c'est pas du porte-parole-là, c'est autre chose.
Et c'est vrai que moi, je voulais insister là-dessus, parce qu'il me semblait que rabattre le rap sur le message, c'était aussi le priver de sa dimension artistique. Ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, dans les premières interviews de NTM, ils mettent vraiment l'accent sur le fait qu'ils veulent pas être les porte-parole d'une jeunesse, qu'ils veulent pas faire passer des messages, mais qu'ils veulent faire du bruit, diffuser de l'énergie, inventer une nouvelle façon de danser, de parler, d'éructer sur scène. Ils veulent surtout pas que les journalistes les rabattent justement sur ce porte-parole-là des banlieues, des cités, d'une jeunesse défavorisée.
Les textes, j'imagine que vous vous êtes quand même penché dessus, enfin que vous d'ailleurs dans du bruit vous citez des phrases, des punchlines.
Parce que justement, le texte a son importance dans la rime, dans le jeu sur les consonances, dans le jeu sur les consonnes qui raclent, c'est-à-dire pas tant les mots que la façon de les articuler, la façon de les prononcer, la façon de prononcer le verbe au sens de matière, de glaise, quoi, de pierre, comme un sculpteur qui travaille une matière, là, à la rencontre de cette matière verbale-là et d'un rythme musical. C'est d'abord ça, le rap, en fait. C'est comment je parle avant de ce que je dis. Un art musical qui, justement, fait passer le texte derrière pour privilégier cette espèce de d'excitation collective qu'on retrouve dans la danse. C'est pour ça que le live est essentiel dans le rap comme dans le rock. C'est-à-dire que NTM le dit, on fait du rap pour la scène, pour le live.
Pour le temps du concert, je voudrais voir tout le monde le doigt en l'air. Tout le monde, je ne vois pas tout le monde le doigt en l'air. Oh ma boy, je ne vois pas tout le monde le doigt en l'air.
Parce qu'on est tic fort, on se retourne au même schéma.
Vous gardez quel souvenir, quelle trace du concert de novembre 98 au Zénith ?
Je garde le souvenir du dernier grand concert de ma vie. Je crois que j'ai pas vécu ça de nouveau depuis, bien que je les ai revus sur scène. Oui, mais je pense que c'est lié à deux choses. D'abord, un âge de la vie. J'avais 24 ans, quelque chose comme ça. Et puis, je crois qu'ils étaient vraiment au sommet de leur art. Et c'est vraiment le souvenir, voilà, d'un moment de liesse, de communion, de sueur, de joie que j'ai rarement retrouvé après, mais pas tant parce que les groupes que j'ai vus après étaient moins bons, quoique ça se discute, mais surtout peut-être parce que l'âge est venu rendre mon corps peut-être moins réceptif.
Nous allons tester les micros un par un. D'abord le mien. Celui à Joey, c'est bon.
Cool Chen et Joey Star. Deux phrasés, deux scansions, deux flots.
Il y en a un qui est vraiment dans la respiration. Je parle du flow asthmatique de Cool Chen, cette matière très syncopée, sans reprendre son souffle de rapper, et puis une ligne comme ça, très claire, très fluide, donc vraiment sur la respiration. Et puis il y a le flow de Joey Star qui vient un peu percuter cette ligne très pure, d'une manière beaucoup plus animale, beaucoup plus rocailleuse, où il racle les mots, c'est plus métallique, c'est vraiment le jaguar, comme il s'appelle, le jaguar gorgone, qui vient comme ça mordre au mollet le flow beaucoup plus pur de Cool Chen. Donc ça se joue sur cette double partition.
Pour vendiquer notre authenticité, car voilà une vertu bien rare, beaucoup trop rare de nos jours, pour est attribuée à tort et à travers, trop vite à juger à les gens qui ne sont que des blaires. Un, j'enchaîne le deux, voilà le trois. Ce deuxième couplet est adressé à tous les médias.
Enfin presque.
En tout cas à tous ceux que l'infamie démange, et écrivant expliquant ceux qui veulent, ceux qui les arrangent.
Stop.
Ne t'avise pas de nous faire ça.
Bon.
Tiens, pour t'éliminer, pas besoin de contrat.
Parmi les premiers instrumentaux sur lesquels Cool Chen et Joey Star ont posé leur flow, il y avait ça. Et l'un et l'autre se lance dans un marathon, une course-poursuite entre leur débit et le rythme. La discographie de NTM raconte une maîtrise de plus en plus virtuose du flow. Pour l'un des titres de leur dernier album, cette fois, ils rappent sur ceci. En 1969, Serge Gainsbourg avait déjà utilisé ce prélude de Chopin pour une chanson intitulée Jane B et interprétée par Birkin. Presque 30 ans plus tard, Cool Chen se pose donc sur du Chopin pour le morceau That's My People.
Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer des spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs, pouvoir faire de la musique.
tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris de ça. J'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas, quand ça vient d'en bas. Et puis quand c'est pas, pour finir léché. Trop sophistiqué, c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pole. Position peu confortable, mais c'est pas grave. J'aime le challenge, porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes compas. Fatigué de cette farce, on veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Mes kiffs, c'est de chiller, rester tranquille au sein des miens, me laisser aller, à le déballer. Des conneries parler juste pour parler. On fait le monde avec notre vision décalée. On est des fous, bloqués dans des cages d'escalier. Pris en otage, je parle nombre élevé de paliers. Et à la longue, mec, je t'assure, tout ça, ça pèse. 96, je vois toujours des braises allumées. Dans les yeux fatigués, des gosses du quartier. Passe, passe le mic, je développe mes idées contaminées. C'est vrai, je suis miné, déterminé à ne jamais vraiment lâcher la. Qu'est-ce que tu peux faire? Je suis pas là pour prendre des coups, bien même pour me taire. Si le FN brandit sa flamme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. Pas d'éclair, de gêné, juste un lyrics qui jaillit de mon esprit, dédicacé à mon poissé. Excuse au fait de prendre de l'âge. Si je sens pas les miens autour de moi, putain, c'est naufrage assuré. C'est vrai, je me sens rassuré. Qu'en présence de ceux que j'aime, je veux m'assurer que tout ce que je balance soit approuvé. Même si j'ai rien à prouver, je veux que tous mes potes puissent s'y retrouver. Je veux pouvoir les garder près, moi les regarder des 12 mois par an, comme l'ont fait mes parents pour moi. Parce qu'après, c'est trop tard. Faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont tibas. Au pire, c'est que t'as envie de pleurer. Ou plutôt que tu sais pas, dans ce cas je peux rien pour toi. J'ai pas la clé du bonheur, j'ai même jamais été à la hauteur. Pour ce genre de truc, mais aujourd'hui j'ai peur. Car l'horloge a tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, tourné.
C'est 11h, c'est ça?
Oui, Pop & Co c'est tous les samedis à 11h. Et l'épisode du jour est dédié à NTM.
Très bien, je vais dire ça à ma maman. Ouais, parce que si je lui parle de podcast et tout, ça va être compliqué. Ok.
Vincent Piollet, auteur de livres sur l'histoire du rap français et sur NTM, est dans Pop & Co. En 2021, le rap est à la radio, mais au début des années 90, quand NTM est arrivé, ça se passait comment ?
Bien, jusque-là, ça se passait pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert le rap, enfin la radio, essentiellement par des radios associatives qui émettaient uniquement, par exemple en Ile-de-France, radio parisienne, radio de banlieue. Et Radio Nova, c'était un petit peu la seule radio, d'ailleurs à l'époque n'avait pas de couverture nationale, qui donnait un petit peu sa chance parce qu'ils avaient aussi une couleur world music, dénicheur de talent, etc. Mais sinon, ça se passait pas du tout, ça se passait nulle part d'ailleurs.
1993, le Suprême NTM publie son deuxième album, J'appuie sur la gâchette. Pour faire la promotion du disque, le spot publicitaire dit ceci. NTM ne passe pas à la radio. Et Joey Starr réplique, mais ça ne nous empêchera pas de faire du bruit. Et le duo écrit un texte sur cette censure du rap à la radio, sur 24 pistes. C'est le titre.
Des années d'abêtissement, d'abrutissement pour quel abrutissement? Un retard musical de 10 ans. La variété nous prend la tête que ces bâtards prennent leur retraite. Il faut qu'on jette les vedettes qui végètent avant qu'on ne les pète. Nous ne sommes pas des prophètes, mais de simples troubles faits. Et néanmoins, auteurs, compositeurs et interprètes. Et de ce fait, défenseurs des droits de l'alliance des poètes. Ce pourquoi je fais face, ce pour qui je tiens tête face à cette marque. Je merde commercial en place. Le combat se promet d'être dur, mais je vous rassure. J'ai les couilles bien accrochées, tu veux la vérité? On va les enterrer pour pouvoir aller chier sur l'heure. Tom-tom, car un jour viendra l'hécatombe des stars en plastique authentiquement construites. Manipulées comme un cube, dans un tube, on les entiers de merde. Braillées par une pin-up, ça s'appelle un dub.
En 1995, tout change. D'un coup, le rap se retrouve sur presque toutes les ondes.
1995, c'est l'année où le rap arrive dans tous les foyers grâce à une initiative institutionnelle et étatique, donc une musique qui au départ est complètement hors du champ de la culture, se voit propulsée grâce à une politique qui est donc qui était la loi Toubon, où on oblige aux radios françaises un quota donc de chansons françaises, mais de jeunes talents aussi.
Il est 20h, c'est le journal d'Antenne 2 du 2 février 93. Paul Amar met la loi Toubon au sommaire.
Ne dites plus « singing in the rain », mais « chanter sous la pluie ». Oubliez « my way », comme d'habitude, c'est mieux. Il faut chanter français, c'est le vœu du gouvernement. Patricia Charnelet et André Issora vont nous le dire, mais ce vœu provoque un beau débat, passionné, comme une bonne chanson.
Vos enfants veulent-ils revivre ? Quelle langue veulent-ils parler ? L'anglais ou l'américain ? Alors si c'est ça, il faut aller vivre là-bas. S'ils veulent vivre ici, ils veulent vivre chez eux. Maintenant, si ces gens aiment tellement l'Amérique qu'ils y aillent, à ce moment-là, nous n'aurons pas besoin de quotas.
Charles Aznavour est en colère. Avec d'autres chanteurs, Souchon, Salvador, Alice Donna, Montagnier, il a été reçu par le ministre de la Communication pour lui dire que la chanson française n'est pas assez présente sur les radios.
La loi Toubon n'impose pas seulement un quota de 40% de chansons françaises aux radios. La moitié au moins doit être composée de nouveaux talents.
Les radios, il faut bien qu'elles trouvent ces jeunes talents français. Et où sont ces jeunes talents français ? Ils rappent partout. Et donc, certaines radios se mettent, comme Skyrock, à complètement changer de modèle. Donc, bon, ils n'ont pas changé le nom en Skyrap. Hein, il reste Skyrock. Mais on passe à des radios rap. Et le rap arrive partout. Et moi, je me souviens très bien avoir écouté « Tout n'est pas si facile » sur Fun Radio. Ça a été assez surprenant parce que pour moi, c'était un groupe. Déjà, quand je mettais la musique, que mes parents écoutaient les paroles, limite, fallait un peu que je me cache. Là, on entendait ça sur Fun Radio, sur Énergie, partout, quoi.
Donc ça veut dire que le rap français est entré dans les oreilles de la jeunesse, est devenu petit à petit la bande sonore dominante des années 2000 par le biais de l'État, par une loi.
Voilà, et après, il y a eu d'autres événements, en fait. Il y a aussi un événement qui est assez important, donc sans faire de la grande sociologie, parce que je ne suis pas sociologue, c'est qu'on arrive à une génération, notamment des enfants et des filles d'une première génération d'immigrés après-guerre. Ces enfants-là, français, nés en France, ils sont en pleine construction de leur identité. Certains d'entre eux sont aussi dans l'adolescence, et dans l'adolescence, comme partout, on est en transgression par rapport à la culture de ses parents. On ne veut pas aller, ce qu'écoutent les parents, ça ne nous intéresse pas. Et d'un autre côté, on a cette culture française, cette musique française qu'on va voir à la télé à 20h30 dans les grandes émissions. Mais c'est une musique qui ne nous parle pas trop, c'est une musique encore très empreinte de grands chanteurs et de grandes chanteuses des années 70 qui continue à être mise en avant. Donc on ne se retrouve pas non plus là-dedans. Et donc où est-ce qu'on va ? Eh bien, on va vers cette musique qui a pour naissance les États-Unis, qui se transforme en France. On plonge dedans et on crée son identité. Et ça dépasse même le statut d'enfant d'immigré, ça touche aussi une jeunesse. De toute façon, si vous regardez même l'industrie du rap depuis maintenant 30-40 ans, beaucoup d'artistes ont monté leur label, font beaucoup de choses. Ils ont créé eux-mêmes leur industrie sans attendre la validation d'un prime time sur une grande chaîne nationale, sans attendre la validation d'universités, de grands intellectuels. Ils ont attendu personne. Et au bout du compte, maintenant, quand vous allez dans n'importe quel collège jusqu'à des gens plus âgés comme moi, la musique qui est écoutée, c'est du rap.
Déjà le hip-hop en France faisait ses premiers pas. Il n'y avait pas de règles, pas de loi, non, surtout pas de contrat, pas de problème entre toi et moi. Tout était clair, du but à la manière dont tout devait se faire. Naïf novice mais tellement fier d'évoluer dans un système parallèle où les valeurs de base étaient pêle-mêle. Peace, unity, love and having fun. Le hip-hop n'a jamais eu besoin de gun ni de gang, de toys ni de bande, mais plus tôt de la foi de ceux qui en défendent la mémoire et l'éthique, les valeurs essentielles, celles qui créent encore l'étincelle lorsque je me rappelle des premières heures du terrain vague de la chapelle. À l'époque, les héros s'appelaient
actuels.
France Inter, Rebecca Manzoni, Pop & Co.
Avant NTM, la banlieue existait déjà dans la chanson et Renaud est le premier à en avoir fait l'un des thèmes de son répertoire d'ailleurs. Avec NTM, la banlieue existe toujours dans la chanson, mais différemment.
C'est la fin des Zonards, de Renaud, des Perfecto, etc.
C'est la fin des Loubards.
C'est la fin des Loulous. Voilà, c'est plus les Loulous maintenant, c'est un Antillais, c'est un, comme on disait à l'époque, un beurre, c'est qui est habillé en Adidas, peut-être une coupe afro avec des Nike aux pieds. C'est un autre monde en fait, il y a un monde qui se finit, un autre qui, on parle plus de zone, on parle plus trop, on parle de cité.
Ils font entendre un changement de vocabulaire.
Complètement, toutes les expressions, déjà ne serait-ce que par le nom « nique ta mère ». On dit « nique ta mère » comme on dit « casse-toi » ou « tu m'énerves », laisse-moi tranquille, bon voilà, c'est nique ta mère. Bon, bah, c'est ce qui se dit à cette époque.
Ils font autant entendre des expressions qu'on n'entend pas, justement, sur les radios nationales. Rien que le nom du groupe, nique ta mère. Mais dans un morceau comme, par exemple, Pour un nouveau massacre, Cool Chain, il utilise l'imparfait du subjonctif aussi.
En France, le texte, et c'est ça aussi une différence avec les Américains, on a une très forte culture de la chanson à texte. Il faut avoir quelque chose à dire. Il faut bien le dire aussi. Ils savent qu'ils vont pas être pris au sérieux, ne serait-ce un peu que par leur, voilà, par leur attitude. Cool Chain l'a dit plusieurs fois, ils ont cette espèce de même Joystar de complexe du banlieusard. Et comme ils sont toujours dans la compétition, ils ont compris qu'il fallait bien le dire, ils le disent encore mieux. Que vouliez-vous que je fisse? Et derrière, ils vont vous parler en verlan sans problème. Ils maîtrisent tous les registres.
La banlieue, Joyce Ormond n'a pas connu. Dans son roman Du bruit, paru en 2007, elle écrit « J'habite en plein centre de Paris, à l'abri, protégée des rumeurs périphériques. Au lycée, on écoute Elton John, on écoute le premier album de Noir Désir, on écoute Putas Fever de la Mano Negra, on écoute aussi Bruel et les Pixies. Du haut de la ligne 12, du Terminus, Porte de la Chapelle, NTM est descendu jusqu'à moi, 14 stations enquillées. »
NTM, d'une certaine façon, m'a sauvée, m'a décrassée. C'est-à-dire que j'habite dans les beaux quartiers parisiens. On est au tout début des années 90. Je passe mon bac. Je suis dans un milieu très, très préservé. Et voilà, je suis dans une espèce de destin sociologique et culturel qui n'a pas déraillé. Et il y a cette musique, comme ça arrive souvent quand on a 16, 18, 20, il y a cette musique tout d'un coup parle justement directement à votre corps et peut réveiller autre chose que votre propre destin. Donc c'était, je pense, cette étrangeté, cette violence, cette énergie qui n'était pas propre justement à mon milieu social, qui est venue finalement résonner avec quelque chose de sans doute enfoui en moi, un peu secret auquel j'avais pas encore accès et qui m'a permis de m'ouvrir à une autre réalité.
Vous dites ça vous a décrassé.
Oui, non, je pense que ça a décapé cette espèce de vernis bourgeois que j'avais, qui était celui de mon milieu et qui me semblait un petit peu mortifère, qui me semble en tout cas rétrospectivement un peu mortifère. Je pense que la découverte d'une musique, c'est peut-être un peu excessif comme propos, mais la découverte d'une musique peut quand même changer votre vie, vous faire bifurquer. Et je pense que d'entendre NTM, ça m'a sans doute mené sur le chemin de l'écriture. Donc c'est pas rien dans une existence, oui.
Ils ont joué un rôle dans le fait que vous vous mettiez à écrire.
Peut-être pas dans le fait que je me mette à écrire, mais dans la manière que j'ai eu d'écrire, dans la manière que j'ai encore d'écrire, dans mon goût pour l'oralité, avec cette idée que justement la langue est une matière et de la glaise à sculpter et que la langue est un matériau, ouais, un matériau comme des notes de musique, comme un tube de peinture, comme un bloc de marbre, et qu'on va tailler dedans, lui donner une forme. Donc ce rapport que j'ai un peu matérialiste, un peu physique à la langue, je pense que je le dois énormément à NTM, et ce désir qu'il y ait un rythme dans l'écriture, qu'il y ait une énergie qui se dégage, je le dois à NTM. Enfin, c'est parce que je l'ai écouté NTM, je pense que j'ai eu envie d'écrire comme ça. Donc c'est très important.
moi j'entends pas la ville faire du bruit ce soir.
On est en tournée en plus.
J'entends pas la ville faire du bruit, papa.
Ça a été les premiers à revendiquer aussi son territoire. On ne parlait pas à l'époque 9-3 avec toutes les déclinaisons de tous les départements. Maintenant, non, c'est une hymne au territoire qui est quelque chose, quand on regarde un peu le parcours, qui est en fait un truc très qui appartient beaucoup au tag. On signe sa ville, on signe qui on est, on signe d'où on vient. C'est peut-être une réponse à l'anonymat que la société vous donne, que ce soit dans le travail, à l'école, on vous rend un peu anonyme. Donc vous taguez, vous allez sur eux, ils allaient sur la ligne 13, on allait voir du 93 NTM partout. Ils allaient le dire partout, ils allaient clamer partout qui ils sont, qui ils existent. De toute façon, après, ça a été relancé partout. On a eu la mafia Quinfri dans le 9-4, Booba et ses 9-2, 92, et puis 13, Marseille. Chacun y allait de son petit département après.
NTM fait entendre la banlieue, sa jeunesse, sa réalité, son vocabulaire sur les ondes. Et Mathieu Kassovitz rend tout ça visible sur grand écran. 1995, c'est la sortie de la haine.
C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Sacré meilleur film au César et prix de la mise en scène au Festival de Cannes, La Haine donne aussi un coup de projecteur sur le rap, puisque la compilation rap qui s'inspire du film est un succès. Le thème du disque, les bavures policières. Et NTM connaît le sujet. En 1993, Kool Shen et Joe Starr écrivent le titre Police.
Encore une affaire étouffée, un dossier classé rangé. On va prendre un tiroir dans un placard, ils vont l'arranger. Car l'ordre vient d'en haut, pourri à tous les niveaux. Ça la fout mal, un diplomate qui business la pedo. Alors on enterre, on oublie, vos témoignages à l'appui. Pendant ce temps, des jeunes béton pour un bloc de tushy. Malheureusement, j'entends dans l'assistance.
C'est moi, j'ai confiance.
Confiance en qui, la police, la justice, tous des fils corrompus dans l'abus, ils puent. Je préfère faire confiance au homme et de ma vie. Pas de temps à perdre en parole inutile. Voilà le deal et du coup, les portes. De désordre. Police, machine matrice, tes cervelets mandatés par la justice. Sur la tête, je sais que les mandatés par la justice sur laquelle je pisse.
Ça s'est passé un 14 juillet, dans le Var, à la Seyne-sur-Mer. NTM est l'un des invités du festival Le Rendez-vous de la Liberté. Avant de jouer ce titre, Police, Kool Shen et Joe Starr improvisent une introduction où ils déclarent: les fascistes sont habillés en bleu et roulent par trois dans des Renault 19. Ils attendent que ça parte en couille pour nous taper sur la gueule. C'est eux qui assassinent. Où sont ces enculés de bleu? Ces gens-là sont dangereux pour nos libertés. L'ensemble des syndicats de police portent plainte. NTM est condamné en première instance à 6 mois de prison, dont 3 fermes, et 6 mois d'interdiction de chanter sur le territoire français. C'est une première dans l'histoire, et le 20h de TF1 recueille la réaction de Jacques Toubon.
Je dois dire que j'ai été frappé immédiatement par la sévérité de cette sentence. Mais bien entendu, vous l'avez dit, en tant que ministre de la Justice, je ne peux pas et je m'interdis de la commenter ou de l'apprécier.
Le chanteur Joe Starr, quant à lui, ne comprend pas l'incitation au meurtre qu'on lui reproche dans ses chansons.
Chez nous, nique la police, déjà c'est un truc légitime, quoi. C'est une espèce de réponse à une provocation qui est faite journalièrement à des jeunes comme moi ou comme d'autres qui sont là, quoi.
Tout est question de vocabulaire, c'est aussi ce qu'a expliqué Eric Raoult en jouant lui aussi sur les mots, mais dans un autre état d'esprit.
Si je voulais utiliser le même langage, je dirais que si on veut niquer quelque chose, aujourd'hui qu'on nique le chômage, qu'on nique l'intolérance, le racisme, le sida, mais qu'en l'occurrence, franchement, les attaques contre la police ne se justifient pas.
Cette même année 95, les Français votent pour les municipales le 19 juin dans son 13h sur France Inter. Jean-Luc Hess présente les résultats.
Plusieurs dizaines de villes ont changé de bord, aussi bien à gauche qu'à droite. Et le Front National, pour la première fois, a remporté plusieurs grandes mairies, dont celle de Toulon, une ville de plus de 170 000 habitants. Le parti de Jean-Marie Le Pen a finalement gagné là où on ne l'attendait pas. Bruno Maigret a été battu à Vitrolles. Marie-France Tirebois a échoué à Dreux, mais Jean-Marie Le Chevalier a donc réussi à Toulon. Victoire du Front National également à Marignane et à Orange.
Il est blanc. Je suis noir.
NTM a toujours eu le Front National dans sa ligne de mire. Aujourd'hui, le Front National est devenu Rassemblement National et ce n'est plus un thème dans le rap actuel.
C'est là où on voit que, de toute façon, la dédiabolisation de l'extrême droite, du FN, au début, il est très stigmatisé parce que ça ne se fait pas, en fait, de s'en prendre à une catégorie de population. Et puis, les années continuant, on arrive aux années 2000, et ben, c'est un discours, en fait, qui se banalise. On peut se permettre de s'en prendre à une certaine partie de la population. Et donc, les rappeurs vont même plus taper sur de l'extrême droite parce qu'ils vont sentir plutôt une espèce presque de fatalité. Il n'y a plus de combat politique et ça devient du... On est dans une forme de nihilisme, en fait. C'est-à-dire qu'il en revient qu'à chacun de se démerder, mais on n'attend plus rien de personne, surtout pas des institutions.
L'histoire et les disques d'NTM donnent la photo d'une époque, celle où les rappeurs s'inspiraient des États-Unis, tandis que ceux d'aujourd'hui regardent vers l'Afrique et l'Asie. Une époque où le rap français n'existait pas encore, eux l'ont rendu possible. On dit aujourd'hui que le rap est la nouvelle variété. En 2011, le duo Brigitte reprend un tube de NTM, Ma Benz.
Laisse-moi sous-zen dans ta Benz, Benz, Benz. Quand tu pointes ton bon passant, rend dingue, dingue, dingue. Laisse-moi sous-zen dans ta Benz, Benz, Benz. Quand tu pointes ton bon passant, rend dingue, dingue, dingue. Girl, t'es sexy, viens voir Co-City. Original Ragaman dans la ville de Paris. Girl, t'es jolie dans ton Versace. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est one push carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls move. Move up, move up. Rough comme une louve. Bouge ton corps de la tête aux pieds. Et là je t'approuve. C'est move up, move up. Girl, one ton body. Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. One comme une vipère. Si t'as le savoir-faire, t'inquiète pas, y'a pas de galère. Je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre. Jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu prends ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu prends ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Ouais, vas-y, Joey, explique-leur.
Ça se passe à l'arrière d'une Merco
Benz Benz Benz. Ouais, du côté de Saint-Denis. Baby, je te garantis qu'il y a des dingues de dingues. T'es ma mire, je suis la flèche que ton entrejambe attire. Amour de Lufia, on vivra en nos troupes, toi et moi. Mais ce soir, faut que ça brille, faut qu'on en quitte. Je veux du freestyle, je veux que tu réveilles, que tu stimules mon côté bestial. Pompe, baby, monte sur mon scène, sein du funk. Je te la ferai façon, je tank. Putain, y'a que ça qui me rend junk. À ton contact, je deviens liquide. C'est comme un trou intemporel. Bouge ton corps de femelle. Regarde le long de tes hanches, je coule. Ondule ton corps, bébé, ouais. Ok, ça roule, je deviens insaisissable à ton contact. L'air est humide, c'est comme une étincelle dans ton regard avide. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu prends ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue.
Pour écrire ce récit, on a puisé dans la biographie intitulée NTM dans la fièvre du suprême, signée Pierre-Jean Clairaut et Vincent Piollet, paru aux éditions Le Mot et le Reste. Du bruit de Joyce Ormond est disponible en folio. Son nouveau roman À la folie paraît le 3 février et le 5 à 9h10. Elle sera l'invitée de Boomerang d'Augustin Trapenard. Une date encore, le 29 janvier, sortie du Pack Live, un pack du suprême NTM en concert. Allô ?
Bonjour, c'est Jean-Louis Pierrot, je vous dérange ?
Ah non, 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 pas du tout. Jean-Louis Pierrot, musicien, orchestrateur, producteur, il a coécrit le nouvel album de Jane Birkin avec Étienne Dao. On soulèvera le capot d'un des morceaux dans une poignée de minutes. Avant, Pierrot et Dao choisissent un disque parmi tous ceux diffusés en ce moment sur France Inter.
Et donc, c'est la chanson de London Grammar, qui s'appelle Californian Soil, que j'ai découvert il y a quelques semaines de ça, complètement par hasard, et que j'avais vraiment adoré. Quoi, la chanson est toute simple, mais je trouve que l'atmosphère est très jolie.
Nous étions trois, pas encore assis, dans le salon d'Étienne Dao. Il y avait donc lui, le musicien Jean-Louis Pierrot et moi.
On s'installe là et pour écouter les pistes, on fait comment? On peut les écouter
Là, il faut imaginer des regards qui disent « Mais qu'est-ce qu'elle nous dit ?»
C'est un ordinateur.
Oui, c'est un ordinateur, oui.
On peut les écouter ensemble ou pas?
Ah bah oui, bien sûr.
C'est donc eux qui ont trouvé la solution pour vous faire entrer dans les coulisses de cette chanson « À marée haute », l'un des morceaux du nouvel album de Jane Birkin. Étienne Dao a co-écrit les textes avec elle, il a composé des musiques, réalisé les arrangements du disque avec Jean-Louis Pierrot. C'est lui, Jean-Louis Pierrot, qui signe la musique de ce titre-ci.
D'accord, c'est mort, je pue.
Les paroles de cette chanson, à marée haute, comme tous les textes du nouvel album de Jane Birkin, sont le résultat d'un collage entre des phrases qu'elle a rédigées récemment et des textes plus anciens, puisés dans sa pièce « Au pardon, tu dormais » qu'elle a écrite au début des années 90. « Au pardon, tu dormais » est aussi le titre de l'album.
Moi, la première fois que j'ai écouté cette chanson, il y a une phrase qui est saillante, c'est je pue la défaite.
Oui, oui, oui. Ça, j'avais trouvé ça dans le parce que j'ai lu, relu la pièce et pris des tas de notes et vraiment segmenté un petit peu tout pour voir ce que je pouvais récupérer, parfois même dans le désordre. Mais je pue la défaite, c'est trop fort. Personne ne dit je pue la défaite. D'abord, personne n'a envie de communiquer de manière négative sur soi et de faire fuir son monde. Moi, je suis parti de ça et j'ai tourné autour, hein, ceci dit.
C'était le point de départ de la chanson,
oui, oui,
ça?
Oui, oui. Ah, bah oui. Ça clignote.
Je ne savais pas ça. J'apprends des choses aujourd'hui, je ne savais pas que c'était le point de départ de la chanson. Il y a deux, trois phrases dans l'album comme ça, je me souviens avoir...
Si tu ne m'aimes plus, je ne m'aime plus non plus.
C'est celle-là aussi.
Voilà, qui est aussi une phrase très forte. Elle a une manière d'écrire qui est très poétique, je trouve. Peut-être parce que le fait qu'elle ne soit pas sa langue maternelle fait qu'elle a des trouvailles, en fait, des choses qui ne viendraient pas à l'idée de quelqu'un qui écrit en français. Parfois des petites imperfections ou des petites incorrections, mais que j'ai laissé passer parce qu'on comprend.
Et vous pensez à quoi?
Un mois courait vers toi, par exemple. Un mois courait vers toi, c'est pas correct, mais je comprends ce que ça veut dire. Et je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Donc je l'ai laissé.
D'accord, c'est mort, je pue. La défaite.
On est en train de découvrir à quel point elle écrit d'une manière originale.
Conway.
Qu'elle a vraiment un style, quoi.
Si proche.
Et le fait de passer de muse à auteur et.
Les brumes.
À prendre vraiment le pouvoir de son travail et de son disque.
D'Angleterre.
C'est assez réjouissant, quand même, pour nous. C'est là où aussi on voulait l'amener. On voulait l'accompagner dans ce passage. Vraiment.
Hein? Ah oui, c'est vrai que avant même d'avoir commencé à travailler sur les chansons, quand on parlait du projet de cet album, c'était qu'elle soit enfin reconnue non plus comme l'interprète, mais comme l'auteur.
Ça s'entend aussi dans son ton.
Oui,
elle n'est plus dans cette douceur.
J'ai dit, il ne faut pas être gentil.
C'est vrai.
Ah oui, oui, oui. Je l'ai poussée à ça, parce que c'est une partie de sa personnalité. Et je pense qu'elle n'a jamais osé la montrer, en fait, cette partie. De sa personnalité, où elle peut être cruelle, elle le dit dans les textes. Et je dis, il faut être rageur, il ne faut pas hésiter à vraiment sortir le croc, quoi. Et elle était contente.
Fini la vie de bonne sœur.
Ça, c'est l'une des premières versions d'À marée haute.
Autrefois, je te faisais rire. Égoïste.
Ce matin, Pop & Co entre dans la création de cette chanson avec Étienne Dao et Jean-Louis Pierrot.
Je prends trop de place. Même pour moi, je prends trop de place.
Si tu m'aimes plus, je m'aime plus non plus.
Là-dessus, j'ai suggéré les cuivres, par exemple. Parce que c'est vrai que les textes sont très graves. Et je trouve que les cuivres donnent un espèce de...
dureté.
Et de conquête, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle est dans une espèce de conquête. C'est pas un spleen écrasant, c'est un spleen de conquête.
Puis s'appuie avec dureté et avec force le propos que les cordes suggèrent.
Ça assoit le truc.
Complètement. Le côté mièvre que peuvent avoir les cordes, parfois, est gommé par les cuivres.
La chanson, elle s'ouvre par un son de cornemuse.
Oui. J'ai rencontré un jeune gars dans un bar. En fait, il est musicien, enfin, il est pilote, mais il est aussi musicien. Il joue de la cornemuse. Il a foncé dans sa voiture chercher sa cornemuse et il s'est installé à côté de moi pour jouer. Et le gars est vraiment... Il a 22 ans, c'est un jeune gars vraiment super. Enfin, il a une espèce de, comme ça, de, d'innocence très belle. Et puis, donc j'ai pris son numéro en me disant, c'est jamais. Et puis, quand on a commencé à travailler sur cette chanson, ça... Il y avait vraiment les brumes d'Angleterre, tout ça. Enfin, il y avait un côté comme ça, un peu marin. C'est comme un film, un peu, cette chanson. Et je me suis dit, ben, là, il faudrait vraiment une cornemuse. Et je l'ai rappelé, il a appliqué, c'est son premier enregistrement. Il a improvisé sur tout le titre, des fois ça marchait pas du tout. Et donc après, il a fallu vraiment encore faire du découpage, ce que j'ai fait. Et finalement, on a gardé que l'intro, qui indiquait vraiment un espèce de climat, comme ça.
C'est une touche de couleur qui introduit la chanson. On a essayé de l'utiliser un petit peu plus loin et ça prend quand même beaucoup de place et parce que c'est un son qui quand même ça bastonne hein, la cornemuse.
Ça polluait un petit peu.
Ça la phagocytait.
Oui. Ah oui, ça c'est Jean-Louis.
C'est vous qui jouez, Jean-Louis ?
Ouais.
C'est une guitare surf. Moi j'adore la surf musique.
Et moi aussi.
Et Jean-Louis aussi.
Et moi aussi.
Et on adore Twin Peaks tous les deux. Donc c'est un mélange des deux en fait. Et ça crée tout de suite un climat très cinématographique. Hein.
Ah oui, ouais. Tout de suite ça pose une ambiance, une atmosphère qu'on adore tous les deux.
Bon, évidemment, Jean-Louis est le musicien de ce duo. Hein. Il a beaucoup plus de talent que moi, ça c'est clair. Malheureusement, souvent, j'en ai les mérites parce que je suis plus connu que lui. Mais c'est vrai.
Je te laisse tes propos.
Moi, j'ai eu vraiment la sensation, et dans mon travail avec Jean-Louis, et dans mon travail avec Jane, de vraiment d'être porté, quoi. D'être comme si on nous soufflait dans le dos.
C'est la chanson qui vous guidait ?
Oui, on lui courait après, quoi.
Un des instruments que j'aimerais qu'on écoute, c'est la basse.
Mm-hmm. C'est un peu la particularité du morceau. Ouais. C'est le titre où la basse, est au niveau du volume, est la plus forte dans l'album, parce que c'est elle qui assit le tout, qui donne le ton.
Ça avance comme un truc de dance, presque, un truc très groove. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a envie de bouger, c'est comme une espèce de chose qui avance inexorablement.
Donc là, la batterie.
À toi, Philippe. Philippe entre sangles. Je trouve que c'est ça qui se marie vraiment avec la voix, qui fait toujours avancer la voix, qui lui donne une impulsion. C'est vraiment ça avec ça que je chante. Si j'ai pas ça très présent, si ça tourne pas, je suis incapable de chanter. Parce que c'est des appuis pour la voix.
En plus, c'est vraiment.
C'est impossible.
De ta culture soul music.
Oui.
Je pense que ça vient vraiment de là. Ouais.
Moi, je trouve que aussi, quand on entend cette basse, on est dans les années 60 en Angleterre.
C'est vrai, d'ailleurs, j'ai vu des commentaires où les gens parlaient de Gainsbourg. Gainsbourg n'a pas été une seconde une référence pour nous. On aurait été si cons de s'en approcher.
Ah, oui.
C'est vrai que la référence Gainsbourg, c'est plus. Quand Jane met sa voix, bah, ça devient Gainsbourg, parce que sa voix, c'est une des composantes du style de Serge, véritablement. Mais par contre, des compositeurs anglais, comme David Axelrod, par exemple, ou John Barry, et c'était presque un pied de nez d'essayer de ramener Jane à Londres et de la ramener
À son premier mari.
À son premier époux. J'avais envie de la ramener à Londres, j'avais envie de la ramener à ses racines, à ses origines.
Je serai là où tes sarcasmes ne me toucheront plus. Je serai là sur la plage des prendus.
Pardon, tu dormais, c'est le titre du nouvel album de Jane Birkin, et Surf, c'est celui d'Étienne Dao, où il reprend, entre autres, des chansons de Pink Floyd, de Phoenix ou des Pet Shop Boys. Jane Birkin sera en concert sur France Inter, ça se passera le 27 janvier à 20h, et Étienne Dao sera avec elle en studio. Koyan Guyen a réalisé cette émission avec Ludovic Aslo ce matin. Ilinka Negulesco et Marion Philippe ont trouvé les archives et la documentation. Jean-Baptiste Audibert contribue carrément à la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co est Pop & Charles Trenet et on entrera dans le labo de Dominique A. À samedi.